Détendez-vous, vous êtes sur Radio Gaco.
Radio Gaco, la web radio de l'IUT du littoral Côte d'Opale.
Bonjour à tous, bienvenue au studio Gaco. Une nouvelle fois, eh bien pour une émission un peu spéciale avec des invités de marque, je dirais une table internationale aujourd'hui dans ce studio à l'IUT du littoral Côte d'Opale à Longnes. J'ai nommé aujourd'hui à ma table eh bien José Lamar, bonjour.
Bonjour.
Sonia Hudon, bonjour. Et pour m'accompagner, une fidèle du studio, Séverine Boivin, bonjour.
Bonjour.
Alors on est eh bien tous les quatre aujourd'hui pour parler d'un partenariat entre les IUT et je dirais le Québec.
Oui,
aujourd'hui,
le Québec.
On parle
ça
du Québec.
Ça nous plaît bien, le Québec.
Très bien. Et alors, on entend bien entendu que vous venez de loin et on est ravis de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour cette semaine où nous avons, nous allons y revenir, bien entendu, mais faire un rapprochement, des diplômes à l'occasion de la réforme du BUT, donc le Bachelor Universitaire de Technologie que tout le monde connaît maintenant aujourd'hui. Eh bien, puisqu'on lui a consacré de nombreuses émissions. Et vous êtes aujourd'hui avec nous et l'ensemble des enseignants pour parler de ce rapprochement des programmes. Et on va parler aussi de mobilité avec vous, Séverine.
Tout à fait.
Alors, José et Sonia, encore une fois, bienvenue en France. Mais ce n'est peut-être pas la première fois que vous venez d'ailleurs ici.
Ben, dans un cadre professionnel, pour moi, dans l'enseignement, oui. Mais Sonia, toi, tu as eu l'occasion de venir avant moi.
Oui, moi, dès 19 ans, je suis venue passer un été ici en échange pour découvrir la France, puis j'ai eu l'occasion de revenir quelques fois par la suite. Mais toi, José aussi, je crois que tu reviens régulièrement.
Mais dans l'enseignement, c'est la première fois, mais j'ai déjà fait un bac plus 5 ici, puis ensuite j'avais travaillé pour Danone.
D'accord.
Ça a duré 4 ans.
Donc
puis...
vous êtes un peu chez vous et vous êtes vraiment les bienvenus.
Merci.
Et est-ce que, on ne vous a pas présenté, mais vous êtes toutes les deux, donc professeurs, donc au collège de Roncemont, et vous accueillez tous les jours, je dirais chaque année, de nombreux étudiants français dans vos locaux au Québec.
Oui, pour la session d'automne, on en reçoit à peu près une quarantaine qui proviennent d'environ 11 IUT différentes, mais Saint-Omer, c'est toujours nos préférés. Toujours. Et c'est environ deux, trois étudiants qui viennent nous voir pour un séjour d'études de 15 semaines.
Alors aujourd'hui, vous êtes venue, Sonia, en France pour un voyage de travail qui va durer deux semaines?
Oui, on termine demain avec vous. Avant, la semaine dernière, on était à Belfort, Montbéliard.
Quels étaient les objectifs que vous vous êtes fixés en venant à la rencontre des IUT, particulièrement en ce moment, dans le cadre de la réforme?
Enfin, on voulait mieux comprendre votre nouveau BUT, parler aussi de notre futur nouveau programme et voir les arrimages qu'on pouvait faire entre nous.
Alors, arrimage, pour ceux qui nous écoutent, c'est un mot qui peut paraître un petit peu barbare, mais on va pas arrimer un bateau. Quel est le sens un petit peu que vous mettez derrière ce terme d'arrimage?
Ben, faire en sorte que ce que vous apprenez soit l'équivalence de ce que nous enseignons. Et donc, D'accord. De ce fait-là, si vos étudiants viennent chez nous, ils apprennent la même chose qu'ils auraient appris, mais dans un contexte différent, une culture différente.
D'accord. On parle bien de mobilité, donc la sortante. Donc, je me tourne vers Séverine qui... Vous êtes professeur d'anglais et vous occupez notamment des mobilités, alors ce qu'on appelle ici les mobilités sortantes.
Sortantes, c'est-à-dire nos étudiants qui partent à l'étranger lors de leurs études. Et en l'occurrence au Canada, effectivement, et à Montréal, au Collège de Rosemont, pour le semestre d'automne. Alors le semestre d'automne chez nous correspond en fait au semestre 3, donc c'est le premier semestre de la deuxième année du BUT.
Voilà, et donc durant ce semestre, alors pour bien comprendre, pour ceux qui nous écoutent, on est inscrit en France, en BUT, on suit sa première année, tout le monde passe en deuxième année, si les résultats vont bien.
Ouais.
Et on fait une petite sélection sur un public volontaire de personnes qui peuvent partir.
Ouais. Et en fait, l'information sur la possibilité de partir au Canada pour le semestre 3 se fait dès la première année, dès la rentrée. Au final, je donne déjà pas mal d'informations aux premières années en leur expliquant le processus de la mobilité, tout simplement. Et... on fait également appel à des étudiants qui sont déjà partis et qui viennent partager leur expérience. Dans l'idée, en fait, de motiver toujours des gens à partir. Mais bon, en général, on n'a pas trop de mal à motiver nos étudiants pour partir à l'étranger et notamment partir au Québec, à Montréal.
On est sur une promotion qui est de 60 étudiants en première année. Quelle est la proportion d'étudiants qui choisissent de faire leur semestre 3 au Canada, au Québec?
Alors cette année, on a 5 étudiants qui sont intéressés et qui partent donc dès la mi-août pour le Canada. Et en général, on est sur la même idée de nombre d'étudiants. Je crois qu'au plus, on a dû en envoyer 8.
D'accord. Quelle est la motivation, vous qui les rencontrez, pour préparer le départ? Quelle est la motivation première?
Partir. Partir, découvrir autre chose. C'est important aussi, hein, l'ouverture d'esprit. Voilà, et puis le Canada fait un peu rêver. Hein. Mmh. C'est l'autre côté
c'est
de l'Atlantique.
C'est pareil et différent.
C'est pareil et différent à la fois. Donc en fait, partir dans un pays où la langue est différente, ça peut être un obstacle, une barrière pour certains, alors qu'en fait, partir sur Montréal, c'est quelque chose qui reste envisageable et facile pour eux, parce qu'effectivement, il n'y a pas la barrière de la langue.
Ouais.
Alors, vous, Sonia, José, vous les accueillez alors, aux alentours du mois de septembre, août
C'est la mi-août.
À
la mi-août, oui, ils arrivent. Et puis, nous, la première chose qu'on fait, c'est qu'on les rencontre pour un petit peu les intégrer au niveau institutionnel pour qu'ils se reconnaissent dans les lieux. On va voir où ils pourront manger, où ils pourront aller prendre des livres, travailler en équipe, ainsi de suite. Et puis ensuite, on y va un peu plus personnel. On les laisse arriver, se poser des questions, vivre leur premier choc culturel, parce qu'on est pareil.
Mais différent.
Et lorsqu'ils arrivent, ils voient la différence. Et donc là, on les rencontre après à la deuxième semaine à peu près pour faire un accompagnement un peu plus personnalisé, où là, on va leur montrer aussi comment ça va se dérouler en classe, les différences dans l'enseignement. Mais bon, a priori, maintenant, ça va être un petit peu moins différent vu que vous aurez une approche par compétences comme la nôtre. Oui, mais avant, quand même, ils étaient étonnés de la façon dont nous, on fonctionnait, faire beaucoup de travail à la maison pour arriver prêt en classe. Donc, à la deuxième semaine, on les rassure, on les guide, on les oriente. Il y a toujours une personne ressource si jamais ils ont des questions.
Alors, on parle de choc culturel, Sonia, mais c'est quand même avec le sourire, je suppose. On sent bien, quand vous nous expliquez, que l'accompagnement, l'intégration ne doit pas faire peur, peut-être, aux jeunes étudiants qui choisissent... De faire cette mobilité.
Enfin, on en a 3 qui viennent cet automne chez nous. Donc, j'en profite pour saluer Noah, Maxime et Périne. Donc, comme ils ont choisi d'être à la résidence, c'est vraiment un bon choix parce qu'ils vont être directement à côté du cégep. Donc, c'est beaucoup plus facile de s'intégrer. Puis, on est aussi, comme vous, un cégep à hauteur, à grandeur humaine. Donc, c'est assez facile. Donc, l'intégration se fait généralement très, très bien et très, très rapidement, incroyablement.
Quel est le conseil que vous donnez dans les premiers moments aux étudiants français que vous accueillez?
Moi, je dirais de vraiment tout essayer, d'être ouvert, de ne pas se mettre de barrières. Par exemple, si quelqu'un aime je pense que c'était Maxime qui aime beaucoup le soccer, le foot, donc d'essayer d'intégrer l'équipe. Donc, de vraiment essayer tout ce qui est à leur portée quand ils viennent au Québec.
Alors, faites-nous un petit peu rêver, un petit peu voyager, là. Racontez-nous votre collège de Rosemont. Comment est-il? Quelle est la taille, son envergure? Qu'est-ce qu'on peut y faire?
Voilà. Un maximum de 3600 étudiants. Donc, pour nous, c'est tout petit à Montréal quand même. Et il y a plusieurs programmes. C'est pas 3600 en technique administrative. Ils seront dans un groupe de finissants, nous. Donc, c'est sur 3 ans aussi. Alors, ils se retrouvent dans des classes d'environ 26 étudiants. Ils auront la chance de se recroiser dans plusieurs cours de différentes matières. Et notre cégep est quand même bien situé à Montréal. Tout près, il y a le stade de foot avec notre super équipe de Montréal
FC Montréal.
Thierry Henry était venu entraîner notre équipe. Hein?
Voilà, les puristes reconnaîtront, bien entendu.
Voilà. Et donc, il y a aussi les petites boutiques, les petits restaurants. Ils peuvent sortir. Ça, ils adorent. On le sait. Et puis, l'autre avantage du collège, je pense, c'est et humblement, hein, mais c'est le corps enseignant. Parce que ça nous ressemble. En fait, on a beaucoup de similitudes dans la façon d'enseigner. On est près de nos étudiants, on les aime bien, on les accompagne. Donc, je pense que ça, Rosemont, c'est quand même une force parce que les autres cégeps sont un peu plus grands et on s'y perd et c'est un peu moins personnel.
C'est votre sentiment aussi, Sonia? Cette proximité, ce lien que vous avez envie de tisser avec les étudiants, il est très présent dans la formation?
Oui, complètement. Mais aussi, j'ajouterais qu'on est un cégep très multiculturel. Donc, c'est vraiment cette richesse dans une même classe d'avoir des gens qui viennent de partout, soit qu'ils viennent arriver au Québec ou qu'ils ont grandi, mais de parents de diverses origines. Fait que ça fait vraiment une belle richesse au sein de nos classes.
Alors, l'objectif ici de ce voyage que vous faites aujourd'hui chez nous, c'est de rapprocher les parties de programme pour faire en sorte que les étudiants suivent un programme similaire au Québec et ne puissent pas être désavantagés par rapport à ceux qui resteraient en France.
Exactement.
On est dans ce cas-là. Ouais. Alors, Séverine, ce déplacement, quels sont les intérêts, les plus que l'on peut mettre au profit des CV, des compétences des étudiants quand ils reviennent, qu'est-ce qu'ils ont récupéré dans leur valise qu'ils n'avaient pas au départ?
Bah, jusqu'à maintenant, c'était un peu la différence justement au niveau des façons de travailler et d'apprendre. Mais je pense que pour moi, en fait, le plus important, c'est la maturité. Donc, ça se met pas forcément sur le CV, mais c'est pour moi une réelle force quand on part à l'étranger. Le fait de te voir se débrouiller tout seul, on n'est plus chez papa-maman, on a notre logement, on doit s'occuper de la nourriture, on doit s'occuper de tout ça. Donc, je pense que c'est quelque chose qui donne énormément, en fait, qui apporte énormément aux étudiants qui partent à l'étranger.
La confiance en soi, je pense.
La confiance
en
soi.
Une fois qu'on a réussi ça, après, le reste semble plus simple, ou du moins, on croit en soi d'être capable de le faire.
Et ça, on devient plus mature, on est aussi ouvert d'esprit, forcément. Mais déjà, quand on décide de partir, c'est qu'on l'est un minimum aussi. Donc, non, oui, du dynamisme aussi.
Et tout ça, vous leur apportez en partie, mais merci de les accueillir.
Mais on les voit quand même évoluer.
Oui.
En 15 semaines, on le voit, ils arrivent, puis ils pensent que c'est un peu la fête. Tout est nouveau, puis c'est une lune de miel, et c'est vrai. Mais après ça, ça devient sérieux, et là, on voit un peu plus leur inquiétude. Puis après, à la fin, ils ressortent comme les nôtres. Là. Je veux dire, il n'y a plus de différence. Ils sont dans le système, ils ont bien compris, ils ont réussi. Puis ils sont super fiers de ce qu'ils ont accompli quand même.
Vous avez écouté les programmes, vous avez fait connaissance avec les équipes enseignantes, que ce soit à Belfort, Montbéliard et ici à Longnes, à l'IUT du littoral Côte d'Opale. Mais quel est votre regard aujourd'hui? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir rencontré, je veux dire, d'être rentré un petit peu plus en profondeur par rapport à un programme qu'on pourrait lire? Qu'avez-vous découvert?
En fait, moi je dirais qu'au début, on ne comprenait pas du tout votre programme. Puis tout d'un coup, à force de parler avec vous, ça fait un déclic, on le comprend très bien. Puis il y a vraiment, vous avez c'est un beau défi à mettre en place, mais justement, c'est un défi, mais c'est un beau défi. Donc, c'est vraiment inspirant de voir ce que vous allez apporter dans les prochaines années avec votre BUT. Donc,
puis en même temps, il y a des compétences qui sont quand même similaires. On voit qu'on travaille sur les mêmes enjeux, les mêmes idées, on tente de contextualiser à peu près de la même façon. Ça, si on reste chez nous et qu'on voit vos étudiants, souvent, ils mettent de l'avant les différences. Si on écoute ce qu'ils nous disent, on a vraiment l'impression que vous et nous, c'est deux mondes différents. Quand on arrive ici, bien sûr, il y a eu le BUT. Et ça a peut-être changé les choses, mais bien avant, vous étiez impliqués, vous faisiez faire des projets, des activités de groupe. Donc, c'était pas si différent que ça. Puis ça fait du bien de voir qu'on travaille de la même façon, qu'on est investi de la même façon, qu'on veut le succès des étudiants de la même façon. Donc ça, je pense qu'on l'avait pas ressenti autant que depuis qu'on a fait ces deux visites-là.
Le travail que l'on mène ici aux étudiants, Séverine, comment a-t-il évolué avec le BUT? Quelles sont les nouveautés qui ont été intégrées par rapport à l'ancien diplôme? Voilà, on parle de pédagogie par compétences. Qu'est-ce qu'on y met derrière pour ceux qui nous écoutent et qui découvrent peut-être pour la première fois ce mot?
Des situations d'apprentissage évaluées. Donc, dans le cadre desquelles on va mettre en pratique des compétences qui auront été abordées par le biais des ressources, donc les matières. Des mises en situation, tout simplement, avec des partenaires extérieurs à l'IUT. Donc, il n'y aura plus que des enseignants. Enfin, il y a les enseignants, bien sûr, qui sont là, mais il y a aussi d'autres personnes qui vont intervenir dans la formation des étudiants. Les projets aussi.
Les projets. Et l'objectif, c'est de contextualiser les savoirs. Oui. Il y a quand même, on va dire, voilà, il y a de la théorie, on apprend bien entendu un volume.
Mais on met en pratique.
Et on met en pratique. Ouais. C'est également votre souhait en termes de pédagogie au Québec?
Oui, c'est exactement ça qu'on fait. Puis on met l'étudiant au cœur de son apprentissage. C'est ça aussi la compétence. Il doit se poser la question, pourquoi j'apprends ça, à quoi ça va me servir, et devant une situation complexe, aller chercher les ressources par lui-même, développer des méthodes qui vont lui permettre de faire face aux contraintes. Les contraintes à l'école, c'est l'examen, c'est les contrôles, mais dans la vie de tous les jours, ce sera un nouveau mandat, ce sera une situation en entreprise. Donc, pour moi, c'est vraiment ça la compétence.
Tout à l'heure, on parlait de méthodes de travail. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous êtes attentif, que vous essayez vraiment de développer chez vos étudiants et que l'on retrouve peut-être pas forcément en France? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez mettre en avant? J'entendais tout à l'heure le travail personnel. Quelle est la part de travail personnel dans les programmes?
Mais en fait, je dirais pas que vous ne mettez pas à l'avant. Je pense que c'est une préoccupation que vous avez aussi, mais qui nous rejoint, c'est l'autonomie. Donc, de vraiment, puis comme José disait, que l'étudiant se pose la question « Pourquoi j'apprends? Qu'est-ce que j'apprends? De quelle façon j'apprends? » Donc, tout ce qui est la réflexion personnelle dans son apprentissage. L'autonomie, puis le travail d'équipe qui est hyper important. Toute la synergie qui ressort de travailler en équipe. Donc, on essaie vraiment de... C'est encore un autre beau défi, mais c'est tellement enrichissant quand les étudiants réussissent à travailler en équipe.
C'est pas facile à transférer, c'est pas facile à enseigner cette autonomie, le travail en équipe. Hein.
Et puis, c'est ça, la compétence savoir, savoir-faire, savoir-être. Je pense qu'on est paré sans en être parlé en profondeur, mais les savoir-être, comment qu'on apprend ça, un savoir-être? Et nous, notre problème en ce moment, c'est qu'on ne peut pas l'évaluer, le savoir-être. Mais quand on envoie quelqu'un en stage ou en alternance, on veut qu'il ait les bons comportements. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel on va devoir réfléchir dans le cadre de notre nouveau programme. Quels sont les savoir-être et comment qu'on peut les observer? Donc, c'est sûr qu'on veut que notre étudiant soit professionnel dans son milieu de travail. On veut qu'il soit autonome. Mais concrètement, comment ça s'enseigne? À part l'exemple, parce que les professeurs, on peut démontrer les comportements souhaitables. Mais travailler sur des comportements observables, évaluables...
C'est pas simple.
Ouais, non, ça, c'est pas simple.
Mais... Au fil de la formation, on est quand même sur un programme, nous, à trois ans, hein, vous également.
Oui.
Effectivement, c'est des choses que l'on acquiert au fur et à mesure, des situations, des mises en contexte. La place de l'international dans la formation, on a parlé... Alors, bien entendu, on parle français et on l'a bien compris autour de cette table, mais la place des langues, de l'international dans le bachelor universitaire technologie a évolué, a changé un peu?
Alors, on aimerait mettre l'accent encore plus, forcément, sur la mobilité, notamment. Là, on réfléchit aussi à ce qu'on peut proposer à nos étudiants lorsqu'ils seront en troisième année. Donc, peut-être qu'on va aussi exploiter de nouvelles pistes pour que nos étudiants puissent encore partir aussi sur cette année-là.
Alors, on reste sur la base du volontariat, je pense, pour aussi bien faire comprendre à ceux qui
nous
écoutent.
Oui, il n'y a pas d'obligation, non, bien sûr.
D'obligation, comme on pourrait le voir dans les écoles, dans notre école, les écoles de commerce, écoles d'ingénieurs, qui obligent véritablement à passer une période à l'étranger.
Oui, c'est pas le cas, mais c'est vrai que moi, j'aimerais bien qu'il y ait encore plus d'étudiants, en fait, qui soient volontaires, parce que c'est une réelle opportunité, en fait, pour acquérir vraiment plein de belles choses, quoi. Des souvenirs, mais pas seulement, quoi. Une expérience, comme on disait tout à l'heure, de la maturité, enfin, du dynamisme. Tout ça, c'est important. C'est vraiment important. Il n'y a rien de mieux, en fait, au final, moi, je trouve.
Surtout à cet âge-là.
Complètement.
Ils n'ont pas... Oui, ils ont des responsabilités. Je ne veux pas choquer nos étudiants, mais pas autant que plus tard.
Exactement. Il y a une certaine
liberté.
Quand la
maison, l'hypothèque, plus le temps de... C'est plus difficile de bouger.
Bien sûr, là, il y a une liberté. Il n'y a pas de contrainte particulière. La seule contrainte, c'est de prendre le temps de réfléchir à comment on va financer. Parce que, bien sûr, ça a quand même un coût.
Ça se prépare.
Même s'il y a des aides, etc., les étudiants qui partent à l'étranger doivent généralement mettre un petit peu d'argent de côté pour pouvoir aussi profiter de la vie sur place. Mais à part ça, en fait, là, on part dans un cadre qui est bien rodé, au final, puisque les étudiants sont sûrs de ne pas perdre le fil dans leurs études, puisque on est bien là en ce moment, effectivement, pour travailler sur les programmes, pour s'assurer que nos étudiants vont bien avoir le contenu que nous, on leur a promis. Donc, c'est vraiment un cadre, donc c'est très c'est très sécurisant aussi pour eux. C'est pas comme si on partait tout seul à l'aventure.
C'est encadré, accompagné. On a bien compris avec vos interventions que c'est...
Donc, ils sont aussi accompagnés avant le départ, donc dans la préparation. Ils sont accompagnés à leur arrivée par vous. Et puis, au retour, on sèche les larmes. Parce qu'en général, ils ne veulent pas revenir. Donc, on les accompagne aussi pour une remise en route.
Ah, on aimerait bien avoir votre secret quand même pour les... Pour faire en sorte qu'il soit aussi bien, voilà, il y a bien un petit truc que vous...
Oui, une potion magique.
Ben oui, le secret, c'est 15 semaines. c'est le fait que ce soit si intense qui fait que ça laisse des si beaux souvenirs. Mmh. Si on était avec eux 3 ans, je pense que ça serait pas aussi intense, ça serait pas aussi magique.
Et pour la plupart aussi de ceux qui partent, c'est leur première expérience à l'étranger. Faut pas l'oublier non plus.
Et on le
comme
voit.
Toute première expérience, c'est certainement la plus marquante. Mmh. Donc, c'est celle qui va laisser les souvenirs plus fantastiques.
Ouais, et vous avez rencontré pendant votre séjour ici à Saint-Omer à la fois les étudiants qui vont partir et que vous allez bientôt retrouver là, au mois d'août, et aussi un ancien étudiant que vous avez, vu, Guillaume Deverte.
On m'a fait une surprise. Non, mais en fait, c'est presque injuste pour nos réguliers parce qu'on les accueille presque pas aussi chaleureusement, mais on sait qu'eux, ils sont déjà dans le système, ils comprennent. Mais moi, je les appelle les valeurs ajoutées. Hein. Je déteste les appeler les Français parce que, je sais pas, j'ai été nommée trop souvent la Québécoise. Donc, pour moi, c'est toutes mes valeurs ajoutées. Ils apportent beaucoup dans mon cours. Puis, il y a ça qui se crée avec nos valeurs ajoutées parce qu'on les accueille, on les suit, on les comprend, on les questionne peut-être un peu plus. Ben, revoir Guillaume, c'était... Revoir nos anciens, vraiment plaisir. Et puis, sur le coup, on le sait qu'ils sont heureux. Mais après, qu'est-ce qu'ils en ont gardé quelques années après? Mais là, ça avait l'air tout aussi intense que la dernière fois. Ils gardaient des bons souvenirs, puis ça nous fait du bien.
Oui, puis ils ont aussi... en tout cas, c'est le cas de Guillaume, mais c'est pas seulement son cas à lui. Ils ont réussi aussi à rester en contact avec les amis qu'ils se sont fait sur place. Et ça aussi, c'est une sacrée richesse, parce que c'est un réseau qu'on peut se constituer dès la deuxième année d'études. Et c'est un réseau national, international. On n'est plus que sur notre IUT de Saint-Omer, Longnes.
Alors, dans ce voyage de travail avec l'arrimage des diplômes, Sonia, vous arrivez bientôt à la fin. Quel est votre souhait le plus fort pour la suite de ce partenariat entre... le Collège de Rosemont et les IUT en général, et la formation GACO en particulier.
En fait, moi, j'aimerais beaucoup que nos étudiants aussi puissent venir découvrir Saint-Omer. Vous avez vraiment un coin de pays merveilleux, puis je trouve que c'est bien de recevoir plein de Français chez nous, mais j'aimerais aussi que nos étudiants du Collège de Rosemont aient la chance de venir découvrir votre coin de pays. Puis de s'intégrer aussi, faire le parcours dans... voir un autre système d'éducation, voir d'autres façons d'enseigner, voir d'autres façons d'apprendre.
En tout cas, ils sont les bienvenus. On leur fera découvrir, bien sûr, la culture du Nord, Séverine.
Et c'est quoi ça, la culture du Nord? Vous pourriez donner un exemple?
Eh bien, ça va du Welsh jusqu'au chou-fleur ici à Saint-Omer, qui est la capitale du chou-fleur. Mais je crois pas que je vais attirer avec mes légumes les étudiants. Mais en tout cas, on a une ambiance... bien sympathique, je pense, pour accueillir un tissu industriel assez dense et varié, qui permet, bien sûr, il y a le tourisme qui a une part importante, mais un tissu industriel autour du papier, notamment.
La verrerie.
Autour de la verrerie, voilà.
La bière.
On a aussi quelques jeunes entreprises qui sont également là, qui peuvent venir former des personnes qui viennent en mobilité internationale. Donc, effectivement, ils sont, bien entendu, les bienvenus. Sonia, José, Séverine, je vous remercie d'être venus à la table du studio GACO et vous êtes les bienvenus pour revenir quand vous voulez.
Et on vous invite en retour, vous êtes attendus, on vous prépare un beau séjour si vous venez nous voir.
Attention, c'est passé dans mon casque.
C'est
enregistré, voilà.
Ça va nous servir de preuve.
Voilà, très bien. Mais encore merci pour votre passage, votre bonne humeur. Et bien tout l'accompagnement que vous faites à nos étudiants, c'est vraiment, c'est vraiment
merci
très
beaucoup.
Très bien.
C'est un plaisir.
Et on a des preuves chaque année que cet accueil est exceptionnel. Donc c'est vrai, sincèrement, vraiment merci. Merci à la technique, à Sébastien Raffin qui était l'homme de l'ombre de l'émission.
et au public.
Et au public qui nous écoute. Voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le site du studio www.studiogaco.fr. Et à très bientôt. Merci et bon retour au Québec.
Détendez-vous, vous êtes sur Radio Gaco.
Radio Gaco, la web radio de l'IUT du littoral Côte d'Opale.